Bonjour et bienvenue au BAP, le bureau des agités du phylactère, rencontre du 9e type, émission podcastable réalisée en live à la FNAC Vélizy, disponible ensuite en podcast sur le www.fnac.com et sur le www.wifm.fr, une émission qui cherche à faire la passerelle entre la bande dessinée, les cultures qui s'en inspirent, l'utilisent ou renvoient à elle, la bande dessinée, le cinéma, la musique, la télévision, les cultures urbaines, les sports extrêmes, ainsi que des tonnes de cultures qui n'ont pas accès aux masses médias, s'enrichissent les uns des autres, les unes des autres, et le BAP est là pour que tous les acteurs de ces cultures se rencontrent en chair et en os pour discuter de leur démarche, élever le débat et niveler par le haut un véritable challenge que nos invités, on l'espère, vont encore relever ce soir. Un petit tour de table pour vous présenter nos invités. À mes côtés, Ange, qui va jouer le rôle d'assesseur ce soir. Ensuite, avec nous, Olivier Vatine,
auteur de BD et co-directeur de collection avec Fred Blanchard aux éditions Delcourt.
Raoul Tellier de la maison Tellier.
Raoul Tellier, guitariste de la maison Tellier.
Et à tes côtés, Helmut Tellier de la maison Tellier toujours.
Exactement, donc moi je chante dans la maison Tellier.
À tes côtés, Jean-Paul Krasinski.
Tout à fait, je suis auteur de bande dessinée, j'aime bien les singes, donc je fais des bandes dessinées sur les singes.
Entre autres. Oui. Fred Blanchard.
Eh oui, alors moi je suis Fred Blanchard, là-bas je suis illustrateur et depuis quelques années je suis plutôt directeur de collection chez Delcourt avec Olivier Vatine.
Et le petit dernier de la soirée, Éric Leroc.
Éric Leroc, président des Chippendales de France, voilà, accessoirement réalisateur et auteur et comédien, enfin voilà, multicasquette à la RATP, SNCF, partout où on veut quoi.
Tu repeins tout du sol au plafond.
Tout partout.
C'est parfait. Vous êtes tous des créateurs qui utilisent des chemins de traverse, des voies annexes pour vous exprimer en évitant que ça devienne des voies de garage, les uns les autres. Olivier Vatine, tu es quelqu'un de réputé, mais il y a eu des débuts, il y a eu des moments où tu as bien dû te lancer dans des aventures.
Bah là, Mauvais Alien, qu'on vient de sortir chez Atacus. C'est un petit comics, c'est un genre de nouveau début. En fait, c'était des histoires qui étaient parues dans le magazine de Delcourt il y a quelques années. Et puis, en discutant avec Fred et Olive, on s'était dit que ce serait sympa de les réunir. Et comme on est fan de jouets, de toys et tout, on s'est dit qu'on allait essayer de refaire un pif gadget, quoi, à notre sauce.
C'est amusant quand même que quelqu'un de réputé comme toi se relance dans une aventure, en plus en 3D.
Pour éviter de se faire chier, quoi, parce qu'à un moment, comme dans tous les boulots, on a tendance à ronronner, à faire des redites et tout. L'idée, c'était de mélanger les deux.
Jean-Paul, toi, t'as une activité très classique et en parallèle, une activité quand même de gars qui a envie de s'amuser.
Bah, disons que la bande dessinée, ça permet ça quand même. C'est que, certes, il y a toujours moyen de faire des histoires classiques, mais surtout, c'est un grand lieu d'expérimentation et on peut amener plein de nouvelles idées, plein de nouvelles formes assez rapidement et trouver un public parfois.
D'où Hack et Carib.
Hack, en l'occurrence, c'est un roman photo avec des peluches qui vivent dans un carton et qui sont menacés par leur environnement puisque le carton est au milieu de la route. Il n'y a que dans ce type de média qu'on peut aller aussi loin dans le n'importe quoi, je crois.
Dans le style n'importe quoi, il y a Éric Leroc aussi qui est pas si mal avec un parcours franchement atypique. Quand on regarde ta biographie, on a l'impression de faire du gymkhana.
C'est le plaisir de la création, c'est-à-dire de ne pas se cantonner simplement sur une autoroute ou sur une départementale, c'est d'essayer tous les chemins de traverse quand ils se proposent à vous. Passer par la case où il ne fallait pas passer à l'époque, c'est-à-dire le sitcom et les comics. C'est-à-dire à l'époque où on faisait du sitcom et des comics, on disait bah tu feras plus rien après. Et puis après, ah, vous regardez la caméra.
Bonjour.
Et puis ensuite, après, j'ai réalisé des courts-métrages parce que bah, avec l'argent que j'avais gagné en faisant la classe et les sitcoms, il fallait bien que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai fait des courts-métrages. Puis les courts-métrages m'ont amené à réaliser un long-métrage. Et le long-métrage m'a amené à réaliser une série sur la psychanalyse sur France 5, donc ça aide. Et puis après, bah, j'ai fait d'autres choses. Et puis jusqu'à faire New Delire, qui est un film qui n'a rien d'original sur le fond, parce que Woody Allen l'a fait en 69, parce que les situationnistes l'ont fait dans les années 80, parce que Michel Hazanavicius l'avait fait avec Le Grand Détournement sur Canal, mais on a essayé sur la forme de jouer des technologies d'aujourd'hui et du plaisir qu'on avait à déconner sur un film indien qu'on a acheté en mêlant des hommages à la BD. Mais par contre, on a voulu faire des hommages sur les As au cinéma, Zucker, Abraham Zucker, qu'on fait Top Secret, qui pour moi reste un film quand même assez extraordinaire.
Top Secret, je le précise, un espèce de passage de gens de l'Ouest américain,
voilà,
en Allemagne de l'Est, voilà. Avec une histoire d'espion joué par Omar Sharif d'ailleurs.
Avec Val Kilmer.
Avec Val Kilmer aussi, une espèce de scène de rock'n'roll hallucinante. Enfin bref, un film vraiment débile et qui débloque à fond la caisse.
Et il y a les Elsa Popin aussi avec Abbott et Costello. Enfin, toute cette culture un peu, pas subversive, mais c'est une culture un peu marginale du cinéma que les nuls avaient essayé de faire et avaient plutôt, je trouve, bien réussi sur la Cité de la Peur et qu'on voit pas beaucoup trop en France. Et nous, avec New Délire, on a essayé d'injecter une part de visuel en plus de la part de délire et de déconnade.
Est-ce qu'il y a eu des réactions là-bas à Bollywood ?
On est interdit de séjour.
Ok, d'accord.
Non, réellement non. On a cherché un film qui avait déjà une dizaine d'années pour être sûr de pas, entre guillemets, vexer ceux qui sortent les films. Et on a pris un film comique de là-bas, de 95. Et puis, le producteur, quand on lui a clairement dit ce qu'on voulait en faire, il a dit ok, banco. Puis il était très content que 10 ans après, financièrement, il a encore des retombées parce que y a ça aussi qui existe en ligne de compte. Et ce qui est super drôle, c'est que dans les avant-premières, on a eu des vrais Indiens qui sont venus. Des Indiens qui vivent en France. Ils connaissaient le film original pour voir comment on traitait le cinéma indien. Ils étaient super contents parce qu'ils ont vu qu'au-delà du détournement, on se moquait pas de leur cinéma. Mais on se servait de leur cinéma pour se moquer de notre culture. Parce qu'on s'est servi de ce cinéma-là pour parler de l'histoire d'un mec qui sort de la ferme académie, qui veut devenir une star de la chanson et qui chante bien, mais qui va rencontrer un producteur qui va lui dire écoute, Coco, t'as pas le physique, tu ressembles plus à un bourrin qu'à Garou. Donc je te propose de monter un département, on va entuber les jeunes.
Tu l'as choisi comment ton film ?
Je l'ai choisi d'une façon très intuitive parce que j'ai reçu une vingtaine de films qui font tous 4 heures et que je me suis pas tapé 20 films de 4 heures et qu'à un moment donné, j'ai vu un film, j'en ai vu plein, au bout de 10 minutes j'arrêtais et j'ai vu ce film-là qui démarrait, qui partait dans tous les sens. Et je me suis dit celui-là il est bien et on l'a.
Et le scénario était élaboré, tu partais sans idée de scénario.
Non, je suis parti sur, on est parti sur des images,
après
4 heures.
Ouais.
Voilà. Et puis avec Pascal Légitimus qui est le co-auteur, on a regardé, on s'est dit ça, là on a un début, là on a un milieu. Tiens, on a mis un an et demi à écrire le scénario, à remonter le film, à voir que en faisant des lectures avec les potes, il y a des informations qui passaient, qui passaient pas. Que la difficulté, c'était de reconstruire une dramaturgie qui soit cohérente, qui fasse que le spectateur ait vraiment l'impression de voir une histoire, mais qui soit en même temps pas ancré dans la vraie dramaturgie du film. Quoi. On a vraiment tout recréé. On a même créé des séquences qui n'existaient pas avant. Des chants contre chants avec des nanas qui se parlent au téléphone, qui n'ont rien à voir dans le film original. Puis nous, on s'est incrusté avec Pascal. On a fait du fond bleu. On a un golfeur qui est un peu notre coccinelle de Gottlieb. Enfin voilà, on a.
Qui est récurrent. Ouais.
Voilà.
Alors, on va passer de Bollywood au boxon à travers la maison Tellier. La maison Tellier, vous avez des activités, on va pas dire rémunératrices, ça sera un autre sujet, mais vous avez des activités sérieuses et une autre activité sérieuse, pas sérieuse, qui est la maison Tellier, puisque vous êtes tous musiciens par ailleurs, si je ne m'abuse.
Non, c'est l'inverse. On est musiciens pas par ailleurs, on est musiciens dans la maison Tellier et on a des activités sérieuses pour vivre à côté. Ouais.
C'est-à-dire vous avez des vrais boulots
des
pour
vrais,
manger.
Des vrais jobs de personnes qui se lèvent tôt, qui sont décomplexés, on est prof.
Ah ouais, vous êtes prof, c'est pour ça, vous avez plein de temps, des vacances pour créer tout ça, la maison Tellier,
c'est chouette. Exactement, ouais.
Vous êtes prof de quoi ?
De maths.
Comment c'est les élèves ?
Ils sont contents, ils vont me voir au concert, ça les amuse, quoi, ça les change.
Pourquoi vous avez pris le nom la maison Tellier pour des profs de maths réputés sérieux chez vous ?
On cherchait un nom au moment où on a commencé à jouer ensemble et c'est pas évident de trouver un nom tout simplement, donc moi je lisais ce bouquin-là au même moment et on est normand, ça se passe en Normandie, l'univers me plaisait bien, l'époque aussi, enfin voilà, c'est une époque un peu la fin du 19e que nous on a fantasmé peut-être plus par la vision outre-Atlantique, quoi, la découverte du Far West, les choses comme ça, et tout ce monde-là qu'on aime bien, les parodies justement de western et choses comme ça, et même les vrais westerns d'ailleurs. Et voilà, donc on se disait, il y a peut-être moyen de trouver, d'essayer de fabriquer un pont entre Maupassant et Sergio Leone, des choses comme ça. Et voilà, la maison Tellier, l'idée d'un collectif comme ça, enfin d'un endroit où on rentre, on sort, un peu tout le monde vient, ça nous plaisait bien, quoi.
Et vous avez la rage. Bon, je vais le dire pour ceux qui seraient pas au courant, votre titre emblématique c'est quand même Killing in the Name de Rage Against the Machine, mm-hmm. mais en version folk.
C'est ça. Bah ça, c'est ça a absolument rien à voir. C'est plutôt un résultat de soirées un peu trop arrosées quand on était plus jeune. Passé une certaine heure, il y a toujours une guitare qui sort et puis au bout d'un moment, on commence à faire les idiots et voilà. 10 ans plus tard, on s'est dit qu'on allait peut-être l'enregistrer pour de vrai dans un studio et voilà. Are the same that burn crosses. Some of those among horses. Are the same that burn crosses. Some of those among horses. Are the same that burn crosses. You're killing in the name of. They're killing in the name of.
Est-ce que vous avez l'impression qu'Internet a joué vraiment un rôle dans votre notoriété maintenant ? Comment ça s'est passé ?
Je crois qu'on doit surtout notre relative notoriété, et notamment la notoriété de la reprise de Rage Against the Machine à Radio Nova. Donc le titre a été chroniqué en fait il y a un an et demi maintenant dans les Inrock. C'était sorti sur une petite compile justement d'un organisme qui fait un peu des... qui emprunte aussi pas mal des chemins de traverse, ça s'appelle les travaux publics. On nous avait proposé de participer au chantier reprise. Du coup, ça avait un peu titillé l'oreille de certains programmateurs radio. Et voilà, ils nous avaient contactés et on avait réussi à rentrer en playlist. Trois de nos chansons ont tourné en rotation un peu lourde pendant 3-4 mois au moment de la sortie de l'album. Parallèlement à ça, on avait aussi un site, un blog et puis une page MySpace. Enfin, c'est sympa quoi, nos sites, on va les consulter tous les jours, on voit qu'il y a du monde qui vient dessus, mais c'est pas non plus la Beatlesmania quoi.
En plus, sur internet, c'est vrai que je pense qu'il faut pas non plus idéaliser complètement le truc en disant oui, par exemple, un gars comme Camini, grâce à internet, il a pu complètement exploser et tout. Il y a peut-être quand même aussi une part de marketing là-dedans et de choses là. Je pense qu'on est plus tellement dans l'indépendant pour le coup, ou dans les chemins de traverse, comme tu disais quoi.
Au départ, tout le monde a besoin de vivre et donc de gagner un petit peu de sous, mais vos démarches créatives ont l'air vraiment d'être dans le but de générer quelque chose et non pas de vous faire vivre. On va commencer par Eric Leroc.
Moi j'ai la chance très rapidement de fuir lâchement les études et puis j'ai vécu très rapidement du métier. Voilà, donc j'ai très rapidement pu asseoir, on va dire, un socle qui m'a permis d'exister, enfin en tout cas dans ma création. Et puis ça va faire 20 ans que je fais ça, et que petit à petit un crédit en amène un autre, une rencontre en amène une autre, et voilà, j'ai créé la famille avec lesquelles je travaille. Maintenant, je demeure intermittent, et je demeure, même si je suis un intermittent privilégié et que je vis bien de ce métier, je me mets toujours en danger. Voilà, là j'ai jusqu'au mois de novembre. Après novembre, avant novembre, faut que j'accroche un truc. Sinon, j'ai de l'ambition, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais je veux pas mettre mon ambition au profit de choses qui me plaisent pas. Et j'ai des enfants et j'ai envie que plus tard, ils aient des traces de leur père qui soient en tout cas cohérentes. Enfin, fiers, j'en sais rien, c'est eux qui jugeront, mais en tout cas cohérentes. New Délire, c'était un truc de potache. C'est un truc de potage, de grand gamin, où on a pleuré de rire, on s'est amusé, ça plaira, ça plaira pas, on s'en fout, on l'a fait.
Eric Leroc, on passe de Bollywood avec un B à Série B et Fred Blanchard. Ouais. Fred, ta seule raison d'exister, c'est pas Série B, mais avec Olivier, vous êtes passé directeur de collection pour des récits que vous portiez au fin fond de votre cœur.
C'est parti d'une frustration, on n'arrivait pas à trouver en librairie les bouquins qu'on aurait aimé lire. Et il se trouve que c'est arrivé à un moment de notre parcours où on venait de se rencontrer, on avait à peu près les mêmes goûts, on était déjà parti sur pas mal de projets personnels. Olivier à l'époque travaillait sur sa série Aqua Blue, il était vraiment bien empêtré dedans. Moi j'étais sorti d'une école d'art depuis 2-3 ans, j'étais parti bien malgré moi dans le monde du dessin animé, dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans à peu près, jusqu'à dessiner les décors de l'adaptation en dessin animé de Corto Maltese.
La cour des arcanes.
Voilà, c'est ça, qui a marqué un peu d'ailleurs la fin de mon aventure merveilleuse dans ce milieu assez fermé.
Et oui, parce que on disait tout à l'heure, vous avez tous des activités parallèles, parce qu'encore une fois, il faut subsister.
Bah oui, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais. De toute façon, c'est la condition sine qua non pour continuer d'avancer, c'est d'expérimenter en parallèle avec le fait de creuser son petit sillon qui nous permet effectivement de pérenniser une démarche au fil du temps. C'est bien de prendre de temps en temps des petits chemins de traverse, de ramener des expériences dans son domaine d'activité principale. Sans ça, je vois pas trop l'intérêt. Autant aller bosser dans un bureau et puis vraiment jouer la sécurité à tous les niveaux.
Jean-Paul, qui n'est pas totalement en sécurité encore, malgré le fait que tu travailles, que tu édites chez Dargo, en parallèle, donc tu as des hacks, des couvertures de bouquins de Calvo ou autres.
Ouais, disons que.
Et de la pub.
La pub, j'en ai fait pendant pas loin de 10 ans. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté maintenant. Je fais que de la bande dessinée parce que j'ai trouvé des éditeurs assez fous pour me financer. Par contre, ouais, la pub, ça m'a vraiment nourri, mais surtout d'un point de vue strictement alimentaire. Et maintenant, disons que moi, j'ai des petits éditeurs comme Carabas et des gros comme Dargo, donc je fais pas la même chose chez les deux. Et c'est vrai qu'il y a des projets fous qui sont peut-être moins payés, mais qui peuvent exister justement grâce à ces petits éditeurs. Mais ceci dit, c'est vrai qu'artistiquement en pub, on n'apprend pas grand-chose. On apprend à répéter, on apprend à voler.
On apprend à être efficace.
Ouais. Après, c'est un but.
Attention, Jean-Paul, il est passé directeur de collection, donc tu efficacité, productivité, synthèse,
plus vite.
Allez, travail.
Moins de bruit.
Alors la maison Tellier, bah, pas de soucis puisqu'ils sont fonctionnaires. Donc,
Il y a certains métiers qui permettent d'avoir des activités à côté. Et nous, on est à un niveau où, musicalement parlant, où on peut se permettre d'être plus ou moins dilettante. Donc là, nous, on veut justement essayer pour voir, pour s'amuser, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre, mais essayer de voir si on peut aller un petit peu plus loin, quoi, faire plus de scènes, avoir un deuxième album plus abouti que le premier, et des choses comme ça. Donc se donner les moyens dans la mesure du possible de le faire.
Olivier Vatine, t'as déjà de belles créations derrière, directeur de collection avec Fred, et puis tout d'un coup, vous faites Mauvais Alien avec les fous d'Atacus.
Finalement, c'est un peu un genre de crise d'adolescence, parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé en BD, ça a marché assez vite. J'aime bien aussi le côté équipe, bosser avec des gens avec lesquels je m'entends bien, qu'on puisse boire des coups, rigoler.
C'est un des moteurs de la création, que d'être avec des gens avec qui on se sent bien, on a envie de créer, de passer des soirées, boire des coups, imaginer des choses.
Il y a des parties de la création où le dessin, bah, t'es tout seul à ta table à dessin, et puis voilà. Là, moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est bosser avec des potes, qu'il y ait une énergie, qu'on puisse rigoler, machin. Et...
Ce qui était bien aussi, c'était sortir un peu de la lourdeur, entre guillemets, de la collection qui marche très bien, mais où on est entouré au niveau marketing, on doit des comptes quand même au staff éditorial qui bosse avec nous, aux auteurs, c'est devenu une très grosse machine. Et là, le fait de bosser sur un petit projet comme ça avec Atacus, je pense que ce qui était vraiment marrant, c'était bosser en commando très réduit, à 3-4 personnes. On a une qui sculpte, deux qui dessinent, mais vite. On a presque autoproduit, c'est comme un groupe qui autoproduit un single, alors qu'il a l'habitude de faire des albums. Moi, c'était plus le plaisir de l'immédiateté, puis de dire, bah merde, ça plaira pas, on s'en fout, on fait le truc et puis on se marre comme ça et on sort encore une fois de la routine
pour juste éviter de s'encrouter.
Alors pour expérimenter, créer et surtout communiquer, aujourd'hui il y a des technologies qui évoluent jour après jour. La maison Tellier qui pour communiquer n'a ni attaché de presse ni responsable marketing, qui est obligé de se débrouiller avec les moyens du bord. Quels sont vos moyens?
Bah ça passe essentiellement par internet, quoi.
C'est aussi caméra, appareil photo, capacité de production chez soi avec un petit portable de son. C'est ce que vous utilisez aujourd'hui?
Plus ou moins, en fait. On est produit par c'est un mini-label, quoi. C'est juste un type qui a un peu plus de matos pour enregistrer la musique que la normale dans son appart, quoi, et dans sa cave. Donc voilà, il en a fait un label et c'est très bien. On sait faire un MySpace, effectivement, on sait tenir un blog, on sait mettre des photos dessus, on sait mettre du son dessus, a priori. Voilà, on sait pas faire plus. Tout de suite, on a l'impression que ça devient super compliqué pour arriver à faire entendre sa chanson à la radio ou que des gens achètent un disque sur lequel il y a notre musique. Ça, c'est un truc qu'on maîtrise absolument pas et qui franchement nous fait chier. Enfin, contacter des gens, faire de la paperasse pour les droits d'auteur et tout ça, c'est très très compliqué. En tout cas, moi je suis allergique à tout ce qui est administratif, donc voilà. Disons que pour l'instant on a une sorte de réseau de collaborateurs plus ou moins informels, bénévoles, de gens qui savent faire un site. Par exemple, on a un copain qui nous a fait notre site, qui fait aussi de la bande dessinée, qui fait des illustrations pour la maison télé de temps en temps. Voilà, mais ça reste très très informel, c'est-à-dire qu'il se fait plaisir. On se fait plaisir.
L'informel, ça doit te concerner aussi Jean-Paul, puisque déjà t'as parfois un scénariste informel, un vieux squatteur de Marseille qui s'appelle David Calvo et que j'embrasse par ailleurs. Tu fais de la bande dessinée entre guillemets classique, et en parallèle tu fais des trucs de barge où t'es obligé d'utiliser de la technologie finalement.
Ouais, bah la technologie sur Alt, c'est un appareil photo pas cher, numérique, c'est 3 lampes, un bout de carton, et quand je fais de la BD classique, c'est des feutres de supermarché, du papier machine. Donc moi j'aime bien que l'outil soit frustre. Déjà pour pas avoir à aller chercher à Londres ou à Amsterdam des pinceaux qui valent la peau des noix et puis aussi parce qu'en fait il n'y a aucune raison que l'outil soit noble. Ce qui est noble, c'est la démarche. C'est aussi une contrainte de partir de peu de choses. Un bout de carton, ça peut donner plein d'idées. Et en fait, pendant qu'on a fait Hack, notamment, donc qui est le roman photo avec des peluches, en fait, on a vécu plusieurs semaines dans un appartement tout en carton. Même plus besoin de partir en vacances, quoi, parce que c'est un autre paysage. Et ça, on pouvait pas le soupçonner avant de commencer, en fait.
Alors toi, t'es dans les moyens minimums. Et par ailleurs, on a Eric Leroth, le site de New Delire. Il y en a de partout.
Ouais, mais c'est parce que là on est c'est un peu le paradoxe, parce qu'en même temps je crois que la création est paradoxale, c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir les moyens pour faire des choses extraordinaires et souvent on fait des choses extraordinaires avec 3 bouts de ficelle. Et là le site New Delire, comme le film New Delire, il a pu se monter parce que justement il y a une personne qui y a cru, comme dans les contes de fées ou comme dans les films américains où d'un seul coup il suffit de rentrer et puis en 5 minutes c'est fait. Ça s'est passé comme ça, j'ai mis 3 ans à trouver quelqu'un et puis en 5 minutes ça s'est fait avec quelqu'un qui s'est marré, qui a dit banco on y va. C'était Fabienne Servan-Schreiber, le film s'est fait et il s'est s'est fait avec des moyens, parce que quand même il y a eu une vraie prise de risque par cette productrice là et elle nous a permis de le faire. On a travaillé d'une façon artisanale mais d'une façon très professionnelle avec que des pros, aussi bien dans les effets spéciaux que dans le mixage. C'est ça qui est super étonnant, c'est que on a le budget d'un long métrage moyen, ça doit être, je sais pas, 4, 5, 6 millions d'euros, et nous le film a été fait avec 500 ou 600 000 euros, mais faut les sortir.
Les uns les autres, vous avez des créations, on va dire, classiques ou et anachroniques. Comment les prennent vos familles, vos parents, vos amis? Comment est-ce qu'ils vous considèrent, vous et votre métier et vos créations? Éric Leroc.
J'en sais rien, ils sont là, ils sont présents, ils partagent pas, voilà, j'en sais rien. La difficulté, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. On vit dans une société qui nous permet de le faire, on n'est pas en Afghanistan, ça veut pas dire qu'en Afghanistan on n'y arrive pas à le faire, c'est-à-dire, je pense que ça doit être plus compliqué, plus difficile. Soyons heureux, c'est super dur de l'être, mais si, moi, voilà, j'essaye de retrouver l'espace de liberté qui est à l'intérieur de moi, qui fait où je me retrouve comme un gamin, où je retrouve un truc très primaire. C'est super difficile, mais quand on y arrive, c'est super jouissif. Donc, ce qu'en pense ma famille, j'ai pris de la distance avec. À 20 ans, on a envie de plaire à ses parents, aujourd'hui j'en ai 40 et je m'en fous un peu. Donc, ça me permet d'être tranquille dans la création.
Fred Blanchard.
Moi, j'ai essayé de leur expliquer pas mal de fois ce que je faisais, et voyant qu'ils étaient complètement largués, ma mère me disait alors, ton dernier dessin animé, il est sorti en album quand? Enfin bon, c'était n'importe quoi. Je pense que j'ai renoncé à toute velléité d'explication. Et puis c'est vrai que, comme toi, j'ai tendance à m'en foutre. Au bout d'un moment, je fais les choses pour moi. Même vis-à-vis du public, au bout d'un moment, on a beau dire qu'on fait... c'est vrai qu'on est dans des arts, qu'on veuille ou non, un peu commerciaux. Mine de rien, on est là aussi pour essayer d'intéresser des gens. Et malgré ça, je pense que quelque part, il faut se foutre de tout ça. Sans ça, on peut pas avancer. Ou alors, on va avancer de manière hyper calculée. Et ça va sonner complètement faux, je pense. Et effectivement, le fait de faire des trucs de son côté, toutes les technologies numériques qui nous permettent de faire ça, qui n'existaient pas il y a pas mal d'années, je pense que ça nous permet de prolonger ce désir d'essayer d'imposer sa vision des choses.
Est-ce que leur regard sur toi a changé parce que tu es un, entre guillemets, créateur?
Non. Je pense que ce qui peut impressionner les parents, peut-être au bout d'un moment, c'est une espèce de reconnaissance du public ou de la profession. Ils se disent « Oh là là, il est passé à la radio » ou « Oh là là, il est dans une coupure de journal ». Moi, personnellement, je m'en fous un peu, mais c'est vrai que ça a tendance à les impressionner parce que, quelque part, c'est une espèce d'image de l'establishment qu'ils ont par les médias. Et puis, même si nous, on sait que c'est un autre petit niveau, eux, je pense qu'ils se rendent pas compte. Et puis, au moins, les premières fois, ils sont épatés. Mais voilà, faut pas en tenir compte plus que ça.
Olivier Vatine.
Ouais, bah, je sais pas, tous les gamins dessinent. Sauf qu'à un moment, certains décident de continuer. Je sais que mes parents ont pu douter à un moment quand j'étais au lycée et tout, quand je voulais m'orienter vers ces trucs-là. Et puis, j'en démerdais pas. Maintenant, ça marche, ils sont super fiers. Et puis, c'est parfait. Mes gamins, ils me voient tous les jours. Donc, eux, ils s'en foutent. Non, ce qui est marrant, c'est plutôt l'œil des parents, des copains de mes gamins, quoi, si tu veux. Ils comprennent pas tout le temps. C'est un peu, pour certaines personnes, ouais, du quartier, on est un peu des martiens. Mais...
Tu veux dire, ils croient que tu dessines des petits Mickey?
Ouais, non, le dernier truc rigolo qui me soit arrivé, c'est que j'ai bossé pour Max, tu sais, le canard un peu de cul, là, il vient de s'arrêter il y a quelques mois, et puis je mettais en couleur sur l'ordi, et puis de temps en temps, il y a mon fils qui passait, qui voyait les meufs à poil et tout, et puis de temps en temps, il me piquait les Max avant que ça arrive, et puis c'était les dessins qui étaient censés illustrer le courrier des lecteurs, qui était un peu chaud. Puis il a dû se vanter auprès de ses copains dans la cour de récré, ouais, genre, mon père, il dessine la prêtresse du sexe dans Max et tout. Et on a été convoqué par la maîtresse, tu vois. Genre, mais vous voyez pas des trucs bizarres à la télé avec votre gamin et tout? Je dis, non, écoutez, non. Voilà. Ah oui, sinon je dessine dans Max, ouais. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, rien compris. Mais...
Raoul Tellier.
Pour l'instant, on peut pas tellement répondre à cette question puisque nous, on est avant tout enseignants. Et juste, ils sont, je pense, enfin, en tout cas, mes parents, moi, ils sont super contents. Ils écoutent mon disque souvent. Et puis voilà, quoi, ça les fait marrer. Voilà, ils vont à la Fnac du Havre et hop, ils voient le disque de leur fils, voilà, ils sont contents.
Mais les élèves, tu dis, ils sont contents, ils viennent à mes concerts, machin. Mais quand même, est-ce que le prof de maths est pas plus cool parce qu'il a un groupe?
Je pense que oui, fatalement. Enfin, je leur ai jamais dit que je faisais de la musique, ils l'ont découvert eux-mêmes parce que un tel connaissait un tel qui connaissait un tel qui m'avait vu quelque part. Avoir un prof qui fait de la musique, c'est pas pareil que d'avoir un espèce d'archétype du vieux prof de maths avec des bretelles et un pantalon en velours côtelé, ça sent piternel, blouse blanche et plein de craie sur les mains, quoi. Après, est-ce que ça leur paraît plus cool ou pas, je sais pas. Et est-ce que ça les fait mieux travailler? Je sais pas non plus.
Helmut Tellier.
Si je suis content, ils sont contents, en gros. Donc, voilà.
Ah, c'est tout.
En gros, c'est l'idée. Je répéterai plus ou moins les mêmes choses que Raoul, donc...
J'ai une question pour toi. Je sais pas, y a pas ton oncle ou ton cousin qui te dit « Tiens, puisque tu joues de la musique, tu viendrais pas animer samedi après-midi ou je me marie » ou des trucs comme ça?
Pas nécessairement. Non, voilà, c'est vrai que Raoul, il est beaucoup trop bon guitariste, donc forcément, tout le monde vient lui prendre la tête. Moi, j'ai pas ce risque-là, hein, donc voilà.
Jean-Paul Krasinski.
Alors moi, pour mon premier livre, en fait, je me suis fait un peu gronder par ma maman parce que il y avait des gros mots. Alors depuis, j'essaie de faire un peu gaffe. Et tout ça pour dire, c'est mes premiers lecteurs, évidemment, et que s'ils sont contents de moi, j'en suis content aussi, quoi.
Et par la suite, maintenant, évidemment, tu vis avec une de tes scénaristes, alors.
Ouais, évidemment, évidemment, pourquoi évidemment d'ailleurs.
Non, mais plus personne te juge quand tu fais A, que tu amènes ça à tes parents, ils disent il est gentil, Jean-Paul.
Je pense qu'ils sont un peu habitués maintenant, même les éditeurs, ils disent c'est quoi ce coup-ci, des singes, des peluches, des martiens. Je me demande s'ils sont pas un peu habitués. Je vais finir par faire l'Argo Winch pour tous les surprendre.
Bon, mes amis, on pourrait parler des heures. Merci à tous d'être venus, de nous avoir apporté vos lumières. Vous retrouverez cette émission podcastée sur le www.fnac.com et sur le www.wifm.fr qui nous apportent leur soutien. Merci à eux, à vous, à Ange, à Benoît Pierre. Prochain BAP dès la rentrée. On vous tient au courant, comme on dit en Savoie. We stay in touch.